nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois. Alors, plus de questions. Tu en as, toi, des questions? Oui. Quoi?
Mais est-ce que c'est seulement quand le supramental descendra que la divine manière de vivre s'établissera dans le monde?
Je pense que oui. Ça n'a pas l'air de pouvoir se faire autrement. Mais c'est une question toute relative. Peut-être que la manière de vivre pourra devenir un peu plus divine sans devenir tout à fait divine.
Qu'est-ce que tu veux dire par divine manière de vivre?
Nous appelons toujours divin tout ce que nous ne sommes pas et que nous voulons être. Tout ce qui nous paraît infiniment supérieur, non seulement à tout ce que nous avons fait, mais à tout ce qui nous semble que nous pouvons faire. Tout ce qui dépasse à la fois notre conception et notre possibilité présente, nous l'appelons divin. Je dis ça, non pas pour faire une plaisanterie, mais parce que je suis tout à fait convaincu que si on remonte à quelques milliers d'années, quand on parlait de divin, si jamais on parlait de divin, ce que je pense, quand on parlait de divin, on parlait peut-être d'un état analogue à celui des divinités de l'overmind, du surmental. Et maintenant, cette manière d'être des divinités du surmental, qui ont évidemment gouverné la Terre et formé beaucoup de choses sur la Terre depuis très longtemps, nous paraît très inférieur à ce que nous concevons comme le supramental. Et ce supramental que justement nous appelons maintenant le divin et que nous essayons de faire descendre sur la terre, il est probable que il nous fera le même effet dans quelques milliers ou millions d'années que nous fait maintenant le surmental. Et je suis convaincu que dans la manifestation, c'est-à-dire dans l'expression de soi, le divin est progressif. Hors de la manifestation, il est quelque chose que nous ne pouvons pas concevoir. Mais dès qu'il se manifeste dans cette espèce de devenir perpétuel, eh bien, il manifeste quelque chose, il manifeste de plus en plus de lui-même avec un... comme s'il réserver pour la fin les plus belles choses de son monde. À mesure que le monde progresse, ce qu'il exprime dans le monde devient, ce que nous pouvons dire, de plus en plus divin. Alors, Sri Aurobindo a employé le mot de supramental, c'est pour faire comprendre aux gens qui sont dans la conscience évolutive extérieure, et qui ont l'idée de comment s'est développé le monde terrestre, pour leur faire comprendre que c'est quelque chose qui va être au-delà et supérieur à la création humaine. L'homme, qu'il appelle toujours l'être mental, alors ce qui va venir, c'est quelque chose qui sera plus et mieux que l'homme. Et alors il l'appelle supramental, pour se faire comprendre. Mais nous pouvons aussi bien dire que c'est quelque chose de plus divin que ce qui a été manifesté auparavant. Et là, ça, il le dit lui-même aujourd'hui, dans ce que j'ai lu, que c'est infini, que ça n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une perfection croissante. Et ce qui nous paraît maintenant imparfait devait être la perfection à laquelle aspiraient certaines pires périodes de l'histoire terrestre. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Si ça s'arrêtait, ça se finirait. Ce serait un nouveau pranaya.
Mais je n'ai pas compris ici. C'est pour ce développement significatif de la conscience par la pensée, la volonté, l'émotion, le désir, l'action et l'expérience, menant à la suprême divine découverte de soi, que l'homme, l'être mental, s'est revêtu d'un corps matériel.
Alors, pourquoi l'être mental a revêtu un corps matériel? C'est ça que tu demandes?
Il a dit, menant à la suprême divine découverte de soi. Et puis que l'homme, l'être matériel, est-ce que c'est ça le divin, suprême divine découverte?
Non. Le divine découverte, c'est la découverte du divin en soi. Alors l'homme, c'est-à-dire l'être mental, est devenu un homme parce que ce que nous appelons homme, c'est un corps physique avec un être mental dedans. Un être mental se manifestant dans un corps. C'est ça que nous avons, un corps physique. C'est ça que nous appelons homme. Alors, l'être mental s'est incarné et est devenu homme afin de trouver en lui-même l'être divin, la présence divine. Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Et c'est un drôle de procédé. Je ne sais pas s'il va l'expliquer là-dedans. Je ne me souviens plus. Quoi que ce soit moi qui ai traduit, je ne me souviens plus de ce qu'il y a dans ce livre. Mais il y a un fait certain. C'est que cette chose merveilleuse de la présence divine dans la matière qui est à l'origine de la formation de l'être psychique est une chose qui appartient en propre à la vie terrestre. Alors, nous avons dit ça déjà plusieurs fois, je crois, que ce monde terrestre, qui a l'air seulement d'une petite planète sans importance au point de vue astronomique, au milieu de tout le toutes les étoiles et tous les mondes. Ce monde terrestre a été formé pour devenir le symbole de l'univers et pour être un point de concentration pour le travail de transformation et de transmutation divine. Et à cause de ça, dans cette matière qui était peut-être de toutes les matières universelles la plus obscure et la plus inconsciente, s'est précipitée la conscience divine et s'est incarné directement depuis l'origine la plus suprême jusque dans la matière la plus obscure, sans passer par aucun intermédiaire, directement. Ce qui fait que les deux extrêmes se touchent. Le suprême est le plus inconscient. Et que ça ferme le cercle universel. Et ainsi, la vie terrestre est le moyen le plus commode, si on peut dire, ou le plus rapide, de prendre conscience du divin. Et c'est tellement un fait que même quand les grandes individualités cosmiques veulent se convertir ou s'unir à l'origine, eh bien ils prennent un corps physique pour ça, parce que ça leur est plus commode. Parce qu'on peut le faire plus vite et mieux que s'il faut progresser à travers tous les états d'être, depuis n'importe lequel des états d'être de l'univers jusqu'à la suprême origine. C'est plus facile de descendre dans un corps humain et d'y trouver la présence divine. C'est plus rapide. Au lieu, n'est-ce pas, vous imaginez le cercle ou le serpent qui mord sa queue. Imaginez le serpent qui mord sa queue, ça fait un cercle, n'est-ce pas? Alors, si quelque chose veut s'unir au divin, c'est plus facile d'entrer dans la queue que de faire tout le tour du corps. Puisque le divin, la tête mord la queue, et bien si vous entrez dans la queue, vous êtes immédiatement en rapport avec la tête. Tandis qu'autrement, il faut faire tout le tour comme ça pour arriver jusqu'à la tête. Note que je ne suis pas tout à fait sûre que c'est ça qu'il veut dire, mais en tout cas, c'est une explication. Qui se souvient de ça? 1, 2, 3, 4, 5. Perfection psychologique. Quelles sont les 5 perfections psychologiques? Parce qu'on peut, on peut en changer. Et en fait, pour vous, comment dire, vous révéler mes secrets, chaque fois que je le donne à quelqu'un, ce ne sont pas toujours les mêmes perfections psychologiques, ça dépend du besoin des gens. Même à la même personne, je peux donner à différents moments des différentes perfections psychologiques. Par conséquent, ce n'est pas fixe. Mais la première fois qu'on a appelé ça perfection psychologique, je me souviens très bien, c'était une réunion là-haut de cette place qui est maintenant l'endroit où est Prospérité. Je vais le 1er mois, il y avait une réunion. Et on avait décidé des 5 perfections psychologiques. À ce moment-là, on l'a écrit. Mais comme pour moi c'est une chose très fluide et que je dis ça dépend des circonstances et des besoins, je ne me souviens pas de qu'est-ce qu'on avait choisi la première fois. Alors s'il y a quelqu'un qui le sait, il pourra le dire, on compare. Hein? Tu n'es pas sûr. Il y a quelqu'un qui est sûr?
Aspiration, dévotion, sincérité,
quoi? Ça ne fait 4 jusqu'à présent.
Aspiration,
dévotion,
croix, sincérité et soumission.
Et
soumission.
Enfin. Eh bien, quelqu'un m'a dit autre chose. Toi, tu sais?
Oui,
mais... Eh bien, viens le dire.
En anglais, mais...
Oh non, mon enfant, nous sommes dans la classe de français. Pas en anglais.
Sincérité. Aspiration, dévotion, soumission.
Alors ça, c'est ce qu'il vient de dire, lui. Mais alors, toi, tout à l'heure, tu m'as dit fidélité.
Non, ce n'est pas fidélité.
Non, j'ai dit, mais c'est pas fidélité.
Elle a dit fidélité.
C'est quoi?
Mais il n'y a pas fidélité.
Au lieu de fidélité, c'est quoi?
Mais pourquoi il n'y aurait pas fidélité? Je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas essayé de me souvenir de quoi que ce soit. J'ai simplement écrit ce qui me paraissait être le plus important et le plus général. Mais on peut mettre de façon différente. En tout cas, celui qui est toujours là, dans toutes les combinaisons, et à qui que ce soit que je le donne, le premier de tous, c'est la sincérité. Parce que s'il n'y a pas de sincérité, on ne peut pas avancer même la moitié d'un pas. Alors, ça, c'est le premier qui est toujours là. Mais il peut se traduire par un autre mot, si on préfère, qui serait transparence. J'explique mon mot. Je suis en présence de quelqu'un et je regarde cette personne. Je regarde dans ses yeux. Et si cette personne est sincère ou transparente, à travers les yeux, je descends et je vois son âme. Clairement. Mais, justement, c'est ça l'expérience. Quand je regarde quelqu'un et puis que je vois un petit nuage, puis je continue, je vois un écran. Et puis quelquefois c'est un mur. Et puis après c'est quelque chose de tout à fait noir. Et qu'il faut traverser tout ça et puis faire des trous. Et puis pour pouvoir passer, et puis encore on n'est pas sûr qu'à la dernière minute on ne se trouvera pas devant une porte de bronze tellement épaisse qu'on ne passera jamais au travers et que je ne verrai pas son âme. Alors cette personne-là, je peux dire tout de suite qu'elle n'est pas sincère. Mais je peux dire aussi d'une façon plus littéraire qu'elle n'est pas transparente. Mais ça, c'est, nous avons dit, la première chose. Il y a une seconde chose qui est évidemment assez indispensable si on veut avancer. C'est d'avoir la foi ou un autre mot qui a l'air plus limité, mais qui pour moi est plus important, parce que c'est une question d'expérience. Si votre foi n'est pas faite d'une confiance totale dans le divin, eh bien, vous pouvez très facilement garder l'impression de votre foi et être en train de perdre toute confiance dans ou le pouvoir divin ou la bonté divine ou la confiance que le divin a en vous. Ça, ce sont les trois pierres d'achoppement. Ceux qui ont une foi qu'ils appellent inébranlable dans le divin et qui disent c'est le divin qui fait tout, qui peut tout, tout ce qui arrive en moi, dans les autres, partout, c'est l'œuvre du divin et de rien d'autre que le divin. Eh bien, s'ils suivent ça avec une sorte de logique, au bout d'un certain temps, ils vont accuser le divin des méfaits les plus épouvantables qui se passent dans le monde. et ils en font un véritable démon cruel et effroyable, qu'ils n'ont pas confiance. Ou alors, ils ont bien la foi, mais ils se disent, enfin, j'ai la foi dans le divin, mais ce monde, je vois bien comment il est. D'abord, moi, je souffre beaucoup, n'est-ce pas? Je suis très malheureux, beaucoup plus malheureux que tous mes voisins, parce qu'on est toujours beaucoup plus malheureux que tous ses voisins. Je suis très malheureux et vraiment la vie est méchante avec moi. Mais alors, le divin est divin, il est toute bonté, toute générosité, toute harmonie. Alors comment ça se fait que je sois si malheureux? Il doit être impuissant. Autrement, étant si bon, comment est-ce qu'il me laisserait souffrir tellement? Ça, c'est la seconde pierre d'achoppement. Et la troisième, ce sont les gens qui ont ce que l'on pourrait appeler une modestie ou une humilité dévoyée et excessive, et qui se disent sûrement, le divin m'a rejeté, je suis bon à rien, il ne peut rien faire de moi. Je n'ai qu'à abandonner la partie parce qu'il me trouve indigne de lui. Alors, voilà. Alors, à moins qu'on ajoute à la foi une confiance totale et complète en la grâce divine, on aura des difficultés. Alors, il faut les deux, l'un ou l'autre, ou les deux, comme ça. Maintenant, on a mis dans la série dévotion, n'est-ce pas? Oui. La dévotion, c'est très bien, mais à moins qu'elle soit accompagnée de beaucoup d'autres choses, elle aussi peut se tromper beaucoup. Elle peut se rencontrer avec de grandes difficultés. On a de la dévotion et on garde son ego. Et alors votre ego vous fait faire toutes sortes de choses par dévotion. Et des choses qui sont terriblement égoïstes. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à soi et pas aux autres. Ni au monde, ni au travail, ni ce qui doit être fait, on ne pense qu'à sa dévotion. Et on devient formidablement égoïste. Et alors, quand on s'aperçoit que le divin, pour une raison quelconque, ne répond pas à votre dévotion avec l'enthousiasme que vous attendez de lui, on se désespère et on retombe dans les mêmes trois difficultés dont je parlais tout à l'heure, où le divin est cruel. Et nous avons lu ça, il y a des tas d'histoires comme ça, de dévots enthousiastes qui injurient le divin parce qu'il n'est plus avec eux aussi gentil, aussi proche qu'il l'était il y a quelque temps. Il s'est retiré. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Monstre! Il n'ose pas le dire, mais il le pense. Ou alors, ils disent, oh, j'ai dû faire une faute tellement grave que je suis rejeté, et on tombe dans le désespoir. Mais il y a un mouvement que si on peut l'avoir d'une façon constante, comme un complément de la dévotion, cette espèce de sens de gratitude que le divin existe. Cet sentiment de reconnaissance émerveillée qui vous remplit vraiment d'une joie sublime du fait que le divin existe. Qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est le divin, que ce n'est pas seulement cette monstruosité que nous voyons, qu'il y a le divin, que le divin existe. Et chaque fois que la moindre chose vous met en contact, ou directement ou indirectement, avec cette sublime réalité de l'existence divine, le cœur se remplit d'une joie si intense, si merveilleuse, d'une reconnaissance qui est de toutes les choses ce qui a le goût le plus délectable. Il n'y a rien qui nous donne une joie pareille à celle de la gratitude. On entend un oiseau chanter, on voit une jolie fleur, on regarde un petit enfant, on voit un acte de générosité, on lit une belle phrase, on regarde un coucher de soleil, on n'importe. Tout d'un coup, ça vient en nous, cette espèce d'émotion, mais si profonde. Et si intense que le monde manifeste le divin, qu'il y a quelque chose derrière le monde qui est le divin. Alors, je trouve que la dévotion sans gratitude est tout à fait incomplète, qu'il faut que la gratitude vienne avec la dévotion. Je me souviens qu'il y avait un temps où nous avions parlé de courage comme une des... Je me souviens de l'avoir écrit une fois dans une liste. Mais c'est un courage qui veut dire le goût de l'aventure suprême. Et ce goût de l'aventure suprême, c'est l'aspiration. L'aspiration qui vous saisit tout entier et qui vous jette, n'est-ce pas, sans calcul et sans réserve, sans calcul et sans possibilité de recul vers la grande aventure de la découverte divine. La grande aventure de la rencontre divine, la grande aventure, encore plus grande aventure de la réalisation divine. Alors nous mettons, et, n'est-ce pas, pour se jeter dans l'aventure sans regarder en arrière et sans se demander une seule minute qu'est-ce qui va arriver. Parce que si on se demande qu'est-ce qui va arriver, on ne part jamais. On reste toujours les deux pieds par terre, là, solidement, en ayant peur de perdre quelque chose, perdre son équilibre. C'est pour ça que j'appelle ça courage, mais vraiment cette aspiration. Ce sont les deux ensemble. Une vraie aspiration est quelque chose qui est plein de courage. Et puis, alors il y a soumission, hein? C'est-à-dire qu'en anglais c'est surrender et qu'il n'y a pas de mot français qui donne vraiment ce sens-là. C'est entendu, mais Sri Aurobindo avait dit, je crois qu'on l'a lu, que, n'est-ce pas, c'est cette soumission, nous employons le mot soumission parce que nous n'en avons pas de meilleur, que cette soumission est la condition première et absolue pour faire le yoga. Alors, si nous suivons ce qu'il a dit, ce n'est pas une des qualités requises, c'est l'attitude première indispensable pour pouvoir commencer le yoga. Si on n'est pas décidé à faire une soumission totale, on ne peut pas commencer. Mais pour que cette soumission soit totale, toutes ces qualités sont nécessaires. Et moi j'en ajoute une, parce que jusqu'à présent nous n'en avons eu que quatre. J'en ajoute une, c'est l'endurance. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire face aux difficultés sans vous décourager et sans abdiquer parce que c'est trop difficile, et puis si vous n'êtes pas capable de recevoir des coups et de continuer, d'empocher, comme on dit, n'est-ce pas? Quand vous recevez des coups provenant de vos difficultés, eh bien, de mettre les coups dans votre poche et puis de continuer à avancer sans faiblir. On ne va pas très loin. En premier tournant, ou en perdu de la petite vie habituelle, on se désespère et on abandonne la partie. La forme la plus, comment dire, matérielle de ça, c'est la persévérance. À moins que vous ne soyez résolu à recommencer 1000 fois s'il le faut, la même chose. N'est-ce pas? Les gens viennent vous trouver désespéré, mais je croyais que c'était fait, il faut encore que je recommence. Et si on leur dit, mais ce n'est rien, vous aurez probablement à recommencer 100 fois, 200 fois, 1000 fois. Vous faites un pas en avant et vous croyez que vous êtes solide, mais il y aura toujours quelque chose pour faire renaître la même difficulté un peu plus loin. Vous croyez que vous avez résolu le problème, il faudra le résoudre encore. Il se représentera avec une toute petite différence d'apparence, mais ce sera le même problème. Et si vous n'êtes pas décidé que même si ça représente un million de fois, ben je le ferai un million de fois, mais j'irai jusqu'au bout. Ça, c'est tout à fait indispensable. Les gens qui ont eu une belle expérience, et puis alors qu'ils disent, ah, maintenant ça y est. Et puis, ça se calme, ça s'atténue, ça se voile, et tout d'un coup, une chose tout à fait inattendue, absolument vulgaire, et qui a l'air d'être complètement sans intérêt, elle se présente devant vous et elle vous bouche le chemin. Et alors on se dit, oh, à quoi ça sert alors que j'ai fait ce progrès, si ça recommence? Pourquoi faire? J'ai fait un effort, j'ai réussi, je suis arrivé à quelque chose, et maintenant c'est comme si je n'avais rien fait. Alors c'est désespérant, parce qu'on n'a pas d'endurance. Si on a l'endurance, on dit c'est bon. Bien, je recommencerai aussi longtemps qu'il le faut. 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, s'il le faut, je recommencerai, mais j'arriverai jusqu'au bout. Et rien n'aura le pouvoir de m'arrêter en haut. C'est très nécessaire. Très nécessaire. Alors voilà ma proposition. Nous mettons soumission d'abord en haut, c'est-à-dire que nous acceptons le fait que Sri Aurobindo a dit que pour faire le yoga intégral, il faut d'abord prendre la résolution qu'on se soumettra entièrement au divin. Il n'y a pas d'autre moyen que c'est le moyen. Mais ça, après ça, il faut avoir cinq vertus psychologiques, cinq perfections psychologiques. Et nous disons que ces perfections sont sincérité ou transparence. Quelqu'un le prend pour que je n'ai pas besoin de réécrire. Foi ou confiance. Confiance dans le divin naturellement. Dévotion ou gratitude. Courage ou aspiration. Endurance ou persévérance. Une forme de l'endurance, c'est la fidélité. La fidélité à sa résolution. Être fidèle. On a pris une résolution, on est fidèle à sa résolution. C'est de l'endurance. Voilà. C'est tout. On va méditer sur ces cinq perfections.